Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte, avec Pierre à la technique, Sophie au micro, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas vous? Est-ce que c'est nous? Le loup a été longtemps l'image d'un fauve sanguinaire, mais de tous les animaux, il est celui qui a généré le plus de fantasmes et a suscité le plus d'angoisse. Maintenant, avec la réapparition des loups, l'image de cette bête fauve a tendance à changer, et notamment dans les albums pour enfants, on voit apparaître des loups végétariens, de méchants cochons et de gentils loups. Mais dans l'histoire, le loup a longtemps traîné cette image féroce, même si dans certaines cultures, le loup était au contraire, avait une image tout à fait positive. Ainsi, Gengis Khan se disait fils du loup bleu, et il y a un loup qui serait descendu du ciel pour s'unir à une princesse biche. Pour certains peuples, avoir un loup parmi ses ancêtres était considéré comme quelque chose de très prestigieux. Sur les grottes paléolithiques, les loups, quoique ils aient été déjà présents largement à cette époque, sont rarement représentés. Pour les Amérindiens, surtout en Amérique du Nord, le loup était vénéré. Certaines tribus pensaient que les loups avaient sauvé l'humanité qui était menacée par des monstres. Pour certains, le loup était le dieu de la chasse et on célébrait par la danse du loup le départ des chasseurs au moment des solstices d'hiver. Dans l'Antiquité grecque, l'image du loup était déjà ambiguë. Zeus, le dieu des dieux, aurait changé en louve son amante Leto, enceinte de ses œuvres, pour la préserver de la vindicte d'Héra. Leto a accouché de deux jumeaux, Apollon et Artémis, dans l'île de Délos, puis elle s'est réfugiée en Lycie, le pays des loups, avec ses enfants. Et là, ils auraient été justement protégés par les loups de l'hostilité des paysans. Mais en même temps, le loup avait une image de férocité, puisque le même Zeus a changé en loup un homme qui l'avait offensé, en lui servant dans un banquet de la chair humaine pour se moquer de lui. À Rome, dans la Rome antique, l'emblème de la ville était la fameuse louve, la louve qui a allaité les jumeaux Romulus et Rémus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Énée, donc le Troyen, avait fui les ruines de Troie après la prise de la ville par les Grecs et s'était réfugié en Italie après un très long voyage. Et là, il avait fondé une ville non loin de l'embouchure du Tibre. Les rois, ses successeurs, se sont succédés sur le trône jusqu'à un certain Numitor. Numitor régnait tranquillement jusqu'à ce que son frère, Amulius, le détrône pour prendre sa place. Et Amulius se croyait tranquille parce que Numitor n'avait qu'une fille et cette fille était une vestale, une prêtresse qui avait fait vœu de chasteté. Seulement, c'était sans compter sur le dieu Mars. Le dieu Mars qui a vu cette magnifique Rhea Silvia, ainsi que s'appelait la jeune fille, il en est tombé amoureux et Rhea Silvia s'est retrouvée enceinte. Et elle a accouché deux jumeaux. Eh oui, encore des jumeaux. L'usurpateur Amulius, furieux, a fait tuer sa nièce et quant aux jumeaux, il les a lâchés sur le Tibre en cru dans une corbeille d'osier, pensant ainsi s'en débarrasser. Seulement, le dieu Mars veillait sur sa progéniture. Il a poussé la corbeille jusqu'à la terre ferme où elle s'est échouée à côté d'un arbre, non loin du mont Palatin. C'est là que la fameuse louve a allaité les deux bébés, Romulus et Rémus, puis ensuite un berger les a découverts et les a emmenés jusque chez lui, et avec sa femme, ils les ont élevés. Quand les jumeaux sont devenus adultes, ils ont appris le secret de leur naissance. Ils ont tué l'usurpateur, ils ont replacé leur grand-père sur le trône, ils ont décidé de fonder leur propre ville. Et là, une querelle a éclaté entre eux. Romulus voulait le mont Palatin, alors que Rémus préférait l'Aventin. Ils ont interrogé les dieux se sont prononcés pour Romulus. Aussitôt, celui-ci a commencé à tracer le contour de la ville avec une charrue. Et Rémus, jaloux et furieux pour se moquer de son frère, a enjambé d'un bond l'enceinte sacrée. Romulus a tué son frère et il a fondé seul sa propre ville, la ville qui a porté son nom, la ville de Rome. Mais si la louve avait dans l'Antiquité romaine cette image favorable, elle avait aussi une autre image puisque Lupa désignait une prostituée. C'est de là d'ailleurs que vient notre mot français « lupanard ». Dans le Nouveau Testament, le bon pasteur et ses brebis sont menacés par les loups, figure du diable. Jésus dit aux apôtres « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Maudit et vénéré, craint et révéré, aimé et haï, le loup est une figure ambiguë qui déchaîne les passions. Aujourd'hui, entre défenseurs et détracteurs du loup, il y a de nombreuses polémiques. Alors, sans rentrer dans ces histoires, on peut rappeler que dans les registres des églises et documents paroissiaux, les actes notariaux, il y avait notamment au XVIIIe et avant des nombreuses relations de méfaits et de crimes de destruction commis par les loups. Est-ce que tout cela avait été enflé par l'imagination populaire ou est-ce que ces chiffres correspondaient à une réalité? Je ne vais pas trancher sur la question, mais avant de démarrer mes histoires, je vous propose quelques proverbes sur les loups. À Noël, mieux vaut voir un loup dans son champ qu'un laboureur. Mieux vaut un loup dans son troupeau qu'un mois de février trop beau. Si tu discutes avec le loup, garde ton chien près de toi. C'est un proverbe turc. Le célèbre « l'homme est un loup pour l'homme ». La faim chasse les loups des bois. Le berger qui vante le loup n'aime pas ses moutons. Les loups trouvent toujours qu'il y a trop de bergers. Qui se fait brebis, le loup la mange. Je pourrais aussi évoquer la célèbre bête du Gévaudan qui a semé la terreur sous le règne de Louis XV vers 1764. S'agissait-il d'un loup? La question est restée mystérieuse parce qu'il s'agissait d'une bête d'une taille tellement immense que il y a eu plusieurs théories. En tout, ce loup aurait fait des centaines de victimes. Le roi a même dépêché son lieutenant de chasse depuis Versailles pour tuer la bête. Le lieutenant croyait avoir réussi, mais en fait, après son retour à Versailles, les attaques de cette bête monstrueuse ont continué. Et finalement, c'est un paysan étrange, repris de justice, et qui passait pour fils de sorcière, Jean Chastel, qui a tué la bête. Il a prétendu qu'une seule balle avait suffi parce que cette balle avait été fondue avec une médaille de la Vierge et que le coup avait été porté par un fusil béni avant son départ pour la chasse. En tout cas, lorsqu'il est allé présenter la dépouille à Versailles, eh bien, 6 semaines s'étaient passées et la bête du Gévaudan puait tellement que le roi a ordonné qu'elle soit enterrée aussitôt. Le naturaliste Buffon n'a même pas pu l'examiner. Et ensuite, eh bien, les attaques ont cessé. Donc, on peut supposer qu'il s'agissait bien de la fameuse bête du Gévaudan qui, même si elle était morte, a continué à faire couler beaucoup d'encre. Il est une figure dans les contes populaires, c'est le loup-garou ou lycanthrope, l'homme ou la femme d'ailleurs, enfin l'humain qui se change en loup. Au cœur du Moyen-Âge, il y a plusieurs lais, ce sont des courts récits en vers qui racontent des histoires de loup-garou. En voici un, écrit composée par Marie de France, vers 1160. Il était une fois un chevalier loyal et ami fidèle du roi qui s'appelait Godefroy. Le roi l'aimait plus qu'un frère et tous les deux passaient beaucoup de temps ensemble et notamment ils faisaient des parties de chasse. Et là, ils pouvaient rester plusieurs jours de suite au cœur des bois à traquer les sangliers et les biches. Ils prenaient sur eux des odeurs de bois. Tout leur sens s'éveillait et lorsqu'ils réapparaissaient, eh bien, ils avaient des barbes broussailleuses, des habits sales et une odeur de bête sauvage. La reine venait les accueillir sur les marches du palais et là, ils jouaient à imiter les ours en dansant et en grognant autour d'elle. Tout cela se terminait dans de grands éclats de rire. Puis le roi et son ami partaient se laver et ils revenaient tout pomponnés en habits de cour. En général, les chasses étaient suivies d'un grand banquet où l'on servait force venaison. Cette vie heureuse continuait jusqu'à un jour où, lors d'une fête au château, une dame inconnue est venue faire sa révérence. Cette dame, plus gracieuse qu'une biche, s'est inclinée devant le roi et le seigneur Godefroy, l'ami préféré du roi, siégeait à ses côtés comme d'habitude. Lorsque la dame s'est relevée, son regard a croisé celui du chevalier. Et l'amour a percé le cœur de Godefroy comme si une lance lui transperçait le flanc. En un instant, le visage de la dame, ses longs cheveux soyeux, son corps souple sont devenus tout son univers. Il lui a fait sa cour et 10 jours plus tard, il devenait son époux. Pour elle, il s'est exilé loin de la cour et des honneurs dans un château perdu au seuil d'une forêt profonde. Le chevalier au cœur fondu s'est perdu dans le miroir des yeux de sa dame. Mais seul son désir s'y reflétait. Jamais la joie de son amante ne venait s'y noyer. Dans leurs étreintes les plus fiévreuses, elle restait froide et distante. Et bientôt, les brumes du mal amour ont enserré le cœur de Godefroy. Il a commencé à disparaître tous les soirs de pleine lune. Au début, la dame n'a rien dit des doutes qui dévoraient son cœur. Mais un matin, justement, après une de ses disparitions, alors que son mari s'approchait d'elle, elle a détourné son visage. En caressant sa joue, il a senti une larme. « Mamie, d'où vous vient cette tristesse ?» Elle l'a regardé, son regard était froid comme la glace. Elle a dit « Messire, il ne sied pas à un chevalier véritable d'abandonner la nuit sa jeune épouse aux moqueries des valets. Vous aimez ailleurs et cela m'est une torture. » Le chevalier, les lèvres pâles, a assuré que l'amour de sa dame lui était plus précieux que la vie. « Eh bien, prouvez-le, » a dit la belle. Elle a tremblé. Puis, d'une voix basse, il a avoué. Lorsque je m'éloigne de vous, c'est que je suis pris par une force qui me dépasse. Et je vais jusqu'au carrefour des 4 chemins. Là, je me déshabille, je cache mes vêtements près de la croix, sous une pierre. Et dès que j'ai ôté mes derniers vêtements, je deviens loup. Je m'enfonce dans la forêt et jusqu'à l'aube, je mène ma vie de loup. Puis lorsque le jour paraît, je reviens à mon habit d'homme et... Mais déjà, elle ne l'entendait plus. Elle imaginait la course du loup sur les bois, ses dents brûlantes, ses proies palpitantes, le sang. Et lui, la voyait s'éloigner. Il a repris. Mais à l'aube, je reprends mes vêtements et qui sont cachés dans les buissons. Ce sont eux, grâce à eux, que je redeviens un homme. Le cœur de cette femme n'était pas assez grand pour que le chevalier y entre tout entier avec son ombre, aussi vaste que sa lumière. Maintenant qu'elle savait tout, horreur et dégoût se partageaient son cœur. Elle le haïssait. Oui, elle le haïssait, celui qui avait mis tout son amour, tout son secret entre ses mains. Elle a attendu la pleine lune suivante. Là, elle a attendu le cœur de la nuit. Puis, elle est allée jusqu'au carrefour, à la croisée des chemins. Elle a trouvé sous la pierre les vêtements de son époux. Avec un sourire mauvais, elle s'en est emparée. Elle savait que si Godefroy ne les retrouvait pas tout à l'heure, il ne pourrait pas redevenir un homme. Et il resterait un loup, pour toujours. Elle en serait débarrassée. Elle est retournée dans son château. Le jour s'est levé et le chevalier Godefroy n'a pas reparu, ni ce jour-là, ni les jours suivants. La dame en a paru affectée. Le roi, ne voyant pas son ami ainsi qu'il en avait l'habitude, a fait demander de ses nouvelles. Il s'est rendu lui-même dans le château. Des recherches ont été entamées, mais il n'y avait nulle trace du chevalier. On aurait dit qu'il s'était volatilisé. Au cœur du roi, la blessure ne s'est pas refermée. Il la voulait ouverte. Qu'elle reste ouverte jusqu'à ce que je puisse serrer mon ami sur ma poitrine. Le roi était persuadé que Godefroy était toujours vivant. Son cœur le lui disait. Un matin d'automne, le roi est parti chasser seul dans la forêt. Et alors qu'il était en lisière du bois, les chiens ont aboyé. Un loup. Le roi s'est lancé dans la traque, mais au moment où les chiens serraient le loup de près, celui-ci, au lieu de s'enfuir, il s'est dirigé droit vers le cheval du roi. Et les chiens ont été comme paralysés, et le loup est venu se coucher aux pieds du roi. Celui-ci, très surpris, est descendu de cheval, il a tendu la main, et le loup est venu poser sa tête sur cette main. À partir de ce jour, le loup est devenu le plus fidèle compagnon du roi. Il dormait dans sa chambre. À la cour, les dames aimaient en frissonnant passer leurs mains blanches dans l'épaisse fourrure de l'animal. Les enfants du château jouaient avec lui et montaient sur son dos. C'était le plus doux des loups. Au sortir de l'hiver, le roi a invité à la cour tous les barons des environs. La veuve du chevalier s'était remariée avec un baron falot et désargenté, et tous deux vivaient joyeusement sur les richesses du seigneur Godefroy. La dame est venue avec son nouvel époux, mais lorsqu'elle est rentrée dans la salle, soudain le loup qui était couché aux pieds du roi, le loup s'est relevé en grognant, et au moment où ses yeux de braise ont croisé ceux de la dame, elle a tremblé. Elle a compris. Elle a essayé de se cacher derrière son époux, mais c'était trop tard. Le loup a bondi et il a enfoncé ses crocs dans sa chair pâle. Aussitôt, on a volé au secours de la dame. Les servantes l'ont emportée dans la chambre de la reine pour la soigner. Les valets sont précipités avec des bâtons. Les hommes ont sorti leurs épées, mais le roi a ordonné que le loup soit conduit dans sa chambre. C'était bizarre, cet animal si doux, ce comportement qu'il avait eu. Alors le roi, qui se doutait de quelque chose, est allé interroger la dame. Pendant toute la nuit, il l'a pressée de questions. Et au matin, elle a fini par avouer. Elle a raconté ce qui s'était passé. Le roi a galopé jusqu'au domaine de son ami et a retrouvé les vêtements là où la dame les avait cachés. De retour au château royal, il est rentré dans sa chambre. Le loup l'a regardé avec des yeux humains. Et le roi a déposé les vêtements au pied de l'animal. Puis il est sorti, il a refermé la porte. La dame a été punie pour sa mauvaise conduite. Et le soir, lorsque le roi est retourné dans sa chambre, sur le lit, il a vu son ami revenu, qui dormait paisiblement. La blessure au cœur du souverain a pu se refermer.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loup sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, perroquets, carousses, liesses et bombances, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups, les loups, les loups.
Serge Reggiani, les loups sont entrés dans Paris pour notre pause musicale. Et maintenant, pour continuer notre programme sur les loups, une légende auvergnate du XVIIe siècle basée sur le récit véridique d'un procès qui a eu lieu en 1603. Le soir descendait sur les montagnes d'Auvergne. C'était cette heure, vous savez, où on ne sait pas très bien s'il fait jour ou il fait nuit, l'heure entre chien et loup, l'heure où on ne peut plus distinguer un chien d'un loup. Ce chasseur-là s'était mis à l'affût près d'un petit étang. Il avait vu dans la boue de la rive les traces d'une biche et il se disait que sans doute l'animal allait revenir pour boire. Il était bien caché dans les buissons, il attendait, le silence s'appesantissait sur la forêt. Puis, au-dessus des fougères, il a vu un frémissement. La main du chasseur s'est crispée sur son fusil. Est-ce que la biche l'aurait repéré? Non. Un sanglier, peut-être? Le chasseur a secoué la tête. Et son sourire s'est figé sur ses lèvres. Un loup, ou plutôt une louve furieuse, venait droit sur lui. Il s'est levé, prêt à tirer, mais c'était trop tard. L'animal avait déjà bondi. Le coup est parti en l'air, le fusil est tombé. Et le chasseur s'est protégé avec un de ses bras, il a protégé sa gorge, tandis que de l'autre, il cherchait fébrilement son couteau. Les crocs de la bête se sont enfoncés dans l'épaisse veste du chasseur. Lui, il a donné des coups au hasard et brusquement, il a senti que la lame pénétrait dans la chair de l'animal. La louve a hurlé, elle a lâché prise. L'instant d'après, elle avait disparu. Le chasseur a senti que le poids qui était sur sa poitrine était parti. Il pouvait de nouveau respirer. Il a retrouvé son souffle. Il s'est demandé s'il allait poursuivre l'animal blessé qui avait laissé derrière lui une traînée de sang. C'est qu'une peau de loup valait cher, mais en même temps, il se sentait vidé de ses forces. En ramassant son fusil, il a vu par terre une patte. Une patte de l'animal que la lame du couteau avait tranchée. Une patte fine aux ongles acérés. Le chasseur a hésité, puis il a pris ce trophée et il l'a mis dans sa besace. Il a marché jusqu'à la lisière du bois, là où les arbres faisaient place à des champs labourés, et puis soudain, il a senti ses forces l'abandonner. Mais que lui avait fait cette louve ? Il a vu la lumière d'une maison qui brillait pas très loin et il s'est dirigé par là. Il est rentré dans la cour. Un chien aboyait. Alors le maître de maison est sorti. Il a vu ce chasseur avec son fusil en bandoulière qui était pâle comme la mort. Mais aussitôt, il lui a proposé de rentrer. Il lui a servi un verre d'alcool. Et puis, ils ont vite fait de sympathiser et l'hôte l'a invité à souper. « Mais vous excuserez mon épouse, a-t-il dit, c'est qu'elle est rentrée de promenade en grelottant et elle a préféré ce soir garder la chambre. » Le repas a été arrosé d'un bon vin, les mets étaient délicieux et mis en confiance, le chasseur a raconté son aventure de la soirée. Il a dit « Tenez, regardez, je vais vous montrer cette patte de louve là pour vous prouver que je dis vrai. » Il a ouvert sa besace et il a pris ce qu'il croyait une patte de louve. Il l'a posée sur la table, mais là, ce n'était pas une patte noire et velue. C'était une main de femme, aux longs doigts couverts de bagues. Les deux hommes se sont reculés, les yeux fixés sur cette main. Puis, le gentilhomme s'est penché, il l'a examiné d'un peu plus près. Quand il a relevé la tête, il était livide et il a dit « Mais je reconnais là la main de mon épouse. » Aussitôt appelée, la femme est arrivée. Elle était enveloppée dans un grand manteau. Elle cachait sa main droite sous l'étoffe, mais les deux hommes l'ont obligée à la montrer. Et là, ils ont vu le moignon ensanglanté qu'elle tentait de dissimuler. « Maudite louve !» a hurlé l'époux. Et quelque temps plus tard, on a brûlé sur la place du village une jeune femme à la main tranchée. Elle avait été jugée coupable, d'appartenir à la monstrueuse famille des loups-garous. Le loup, il y a un autre personnage qui apparaît dans les histoires de loups, c'est le meneur de loups. Un homme très sauvage qui vit avec ses bêtes au cœur des forêts et qui, de temps en temps, vient s'approvisionner dans les villages. Mais écoutez plutôt. Cette histoire se passe, elle commence en tout cas le soir de Noël. Dans la grande salle de l'auberge, il n'y a que François l'aubergiste avec Agnès, son épouse, et leur petite Jeanne, 2 ans à peine. Cette soirée-là, ils ont décidé de la garder rien que pour eux. Pour eux trois. Le lendemain, oh, la salle résonnera du bruit des couverts et des voix qui discutent, mais ce soir, ils ne sont que tous les trois. Le vent griffe les vitres et la neige tourbillonne dehors. Dans la salle, il fait bien chaud. François est en train de veiller sur le feu et il remet des bûches pour que les flammes montent bien hautes et bien claires. Agnès, elle est assise confortablement avec sa petite sur les genoux et Jeanne se fait lourde dans les bras de sa mère. Ça va bientôt être le moment de la coucher. Sur la table, il y a les restes du repas de Noël. Et soudain, des coups vigoureux ébranlent la porte. François, sans se relever, crie « Entrez !» La porte s'ouvre en grand avec les bourrasques de neige qui rentrent tout d'un coup. Sur le seuil, il y a un homme très grand, avec une longue houppelande noire qui lui bat les talons, une toque de fourrure crasseuse sur la tête. Et sous la houppelande, on devine un large pantalon bleu et une ceinture rouge. Le chien, qui d'habitude va en jappant devant des visiteurs, lorsqu'il croise le regard bleu glacier de l'inconnu, il met ventre à terre et se glisse sous la table en couinant. Dans l'ombre derrière l'homme, on voit apparaître des ombres silencieuses et le museau d'un jeune loup qui pointe. Mes bêtes et moi, on a faim. Donne-nous à manger. Dans les bras d'Agnès, la petite s'est réveillée. Elle s'agite pour se libérer, mais sa mère la serre plus fort contre elle, apeurée. « On a faim !» Agnès serre Jeanne encore un peu plus fort et François, lui, il attrape une miche de pain, le plat de ragoût, des pommes de terre et l'homme lui fait signe. L'aubergiste va déposer sur le seuil les plats. Puis il voit l'homme qui s'agenouille à côté de ses bêtes, qui se fait une place au milieu des museaux grondants. Et ils se mettent à manger, tous ensemble. L'aubergiste reste sur le seuil, abasourdi de ce qu'il voit. Puis le meneur de loups se relève. Le jeune loup glisse à museau tremblant dans la salle. Puis il s'enhardit, il fait quelques pas et la petite Jeanne échappe à sa mère. Elle court vers le loup. Agnès étouffe un cri, mais le meneur de loup la regarde et c'est un regard qui calme toutes les peurs. Elle laisse sa fille s'approcher du loup, enfouir ses mains dans la toison épaisse. Elle laisse le loup la lécher de grands coups de langue râpeuse. Une odeur sauvage flotte autour du meneur et de son loup. Puis, l'homme se détourne, il siffle. Il s'en va dans la nuit, suivi de ses bêtes et du jeune loup qui court un peu plus vite pour rattraper les autres. Jeanne voudrait les suivre, mais François, son père, l'attrape sur le seuil de la porte et elle s'agite dans tous les sens pour se dégager, mais il la tient bien. Au printemps suivant, le meneur est revenu. Il grognait qu'il n'aimait pas revenir sur ses pas, mais que l'une de ses bêtes avait quelqu'un à voir. Jeanne a couru, elle a retrouvé son loup avec celui qui avait une étoile blanche sur le front. Et elle a enfoui ses mains dans la toison rêche, elle l'a couvert de baisers. Et ça a duré pendant des années. Tous les ans, lorsque la neige fondait, le meneur de loup revenait. Jeanne guettait, elle mettait une chaise devant la fenêtre et elle guettait pendant des heures. Puis un jour, ils étaient là. Alors elle courait, elle bondissait. Le meneur de loup, avec ses bêtes, s'installait pas très loin de l'auberge, dans les bois. Et les jours, ils étaient là, Jeanne disparaissait pendant des heures. Et lorsqu'elle revenait, elle portait sur elle l'odeur de la forêt. Et sa mère lui disait, mais où est-ce que t'es allée traîner encore ? En fait, elle le savait. Le meneur de loup, le seul qui pouvait lui faire courber l'échine, c'était la petite Jeanne. Et son regard bleu si dur s'adoucissait lorsqu'il se posait sur elle. Quelques jours, il restait, puis il disparaissait de nouveau dans les bois. À 13 ans, Jeanne était une des plus belles filles du village. Elle avait des yeux verts aux reflets sauvages qui faisaient peur aux filles et affolaient les gars. Il y en avait un qui était particulièrement à tourner toujours autour d'elle, c'était le fils du maire. Mais Jeanne ne s'intéressait pas aux garçons. Jeanne, ce qu'elle aimait, c'était la forêt. Elle disparaissait pendant des jours. Et lui, il était toujours là quand elle revenait. Et un jour, il s'est montré trop pressant, elle lui a balancé une gifle. Une gifle qui est mal passée. Sur les pas de Jeanne, maintenant, il y avait des murmures. Sorcière, sorcière, c'est la sorcière. Puis, un jour de printemps, le meneur et ses loups sont revenus. Jeanne et son loup sont partis jouer au bord de la rivière. Ce jour-là, le fils du maire est revenu avec une bête égorgée. C'était les loups, c'est sûr. Alors ils sont partis. Ils sont partis sur les traces des loups, les loups qui égorgeaient les moutons, les loups sauvages. Lorsque Jeanne est rentrée à l'auberge, sa robe était couverte de sang et un cri était étouffé dans sa gorge pour toujours. Le cadavre du loup était sur la berge de la rivière, au milieu de l'herbe et des fleurs jaunes. Ce soir-là, à l'heure entre chien et loup, l'heure où on ne distingue plus les loups des chiens, le meneur de loup a remonté pour la dernière fois la grande rue du village. Sa houppelande lui battait les talons et il murmurait, l'œil brûlant, des paroles qui ont figé les gens sur leur seuil. Au matin, toutes les bêtes du village étaient mortes. Les moutons, les chèvres, même les poules. Il n'y avait que les bêtes de François l'aubergiste qui avaient été épargnées. Elle et loup étaient partis avec leur maître. Quelques jours, il a fallu quelques jours pour que la malédiction du meneur ne cesse de terroriser les hommes. Puis la rumeur a enflé, la sorcière. Tout ça, c'était la faute de la sorcière. Alors ils se sont précipités à l'auberge. Ceux qui étaient là n'ont pas pu les arrêter. Ils se sont jetés sur Jeanne. Il y en a un qui lui tenait les bras pendant que l'autre lui mettait un couteau sous la gorge. Elle les a regardés de ses yeux verts. Elle n'a pas crié. Elle, dont le cri était pour toujours coincé dans sa gorge. Non, elle a juste sifflé entre ses dents. Et les loups étaient là. Ils ont bondi. Il y en a un qui a enfoncé ses crocs dans le bras de celui qui la tenait. Il a lâché prise en hurlant. Un autre qui a sauté à la gorge de celui qui tenait le couteau. Il a lâché son arme et les hommes ont détalé, suivis par les bêtes. Jeanne a secoué la tête. Elle a décroché sa longue cape qui était accrochée derrière la porte. Puis, elle a embrassé son père et sa mère. Elle est sortie sur le seuil sous les étoiles. Là, elle a sifflé une seconde fois. Les loups sont arrivés et avec eux, elle a disparu dans la forêt. Tout cela s'est passé il y a bien longtemps. Maintenant, de l'auberge, il ne reste que des ruines. Mais on dit que, parfois, les soirs de pleine lune, il y a une fille très belle qui vient rôder avec ses loups. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est terminé pour aujourd'hui. Les références de nos contes. L'histoire de la louve romaine, on la trouve dans beaucoup d'ouvrages. Moi, je me suis inspirée de Michel Pastoureau et de son ouvrage sur le loup. Le chevalier Godefroy, c'est dans Les loups de Sylvie Folmer aux éditions Albin Michel. La main de la louve dans 16 contes de loups de Brigitte Coppin dans les éditions Castor Poche. Et le meneur de loups, c'est un mix de Claude Seignol et de Sylvie Folmer. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte, avec Pierre à la technique, Sophie au micro. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h.